Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce dimanche 16 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et le personnage de la semaine. Et ce sera Jean-Jacques Benex. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 16 janvier, les avocats de Novak Djokovic présentent leur dossier pour permettre au numéro 1 mondial de tennis de rester dans le pays et de disputer l'Open d'Australie. Le Victoria reçoit sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides. En France, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a officialisé sa candidature pour la présidentielle de 2022. Les avocats de Novak Djokovic présentent leur dossier pour essayer de permettre au numéro 1 mondial de tennis de rester en Australie et de disputer l'Open d'Australie. L'avocat de Novak Djokovic, Nicholas Wood, tente de réfuter l'argument du ministre de l'Immigration, Alex Hawke, selon lequel la présence de Novak Djokovic en Australie pourrait susciter un sentiment anti-vaccination. Selon lui, le ministre Hawke n'a pas envisager ce qu'il décrit comme un scénario alternatif, la possibilité que l'annulation du visa de Djokovic puisse en soi générer un sentiment anti-vaccination. Nicholas Wood a fait référence à plusieurs articles de presse dont la BBC, ABC et The Guardian sur les déclarations passées de Novak Djokovic sur les vaccins qui, selon lui, sont la seule forme de preuve que Alex Hawke peut fournir et ne sont pas suffisantes car il suggère que Novak Djokovic a dit qu'il n'était aucun expert, mais voulait faire ce qu'il y avait de mieux pour son corps. L'affaire est entendue par la formation complète de 3 juges de la Cour fédérale en ce moment même. Le coronavirus en Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, signale 20 décès suite aux infections du Covid-19 et 34 660 nouveaux cas ce dimanche. Il y a eu 2650 hospitalisations, dont 191 en soins intensifs. Le Victoria a enregistré 13 décès et 28 128 nouveaux cas de Covid-19 et 122 personnes en soins intensifs. Le Victoria a reçu sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides sur un total de 44 millions d'échantillons. Les tests seront distribués aux travailleurs clés à partir de demain, lundi, y compris les travailleurs essentiels du système de santé, des services d'urgence, du secteur des personnes handicapées et des personnes et des soins aux personnes âgées. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, déclare qu'il s'attend à ce que l'approvisionnement total arrive fin janvier ou début du mois de février.
We anticipate having all of those 44 million here based on advice we have as of yesterday by the end of this month or very early February. We'll try and keep you updated as best we can. 3 million is a significant first batch and that takes some pressure off other supply chains, other rapid antigen test providers. That'll be 3 million tests that don't have to be sourced elsewhere, so that alleviates pressure. And we do acknowledge that there is some pressure across the board for these products.
Les professionnels de la santé en Nouvelle-Galles du Sud s'inquiètent des faibles taux de vaccination dans le nord de l'État. Le ministre de la Santé, Brad Hazard, a déclaré que le personnel de santé l'avait contacté pour exprimer leur inquiétude.
They have major concerns in the northern part of New South Wales because of the relatively low rate of vaccination. And that emphasizes the message that Dr. Chant was just talking about. The need to get vaccinated. We know that people who are vaccinated do far better when it comes to defeating this Omicron and indeed the other variants of the virus.
Le gouvernement fédéral débloque 24 millions de dollars pour financer les services de télésanté, y compris la fourniture d'équipements de protection individuelle et un soutien en ligne supplémentaire. Il s'appuie sur les 34 millions de dollars déjà fournis depuis le début de la pandémie. Le financement supplémentaire soutiendra les modifications temporaires de la télésanté conçues pour donner aux médecins généralistes et aux spécialistes la capacité de gérer les patients COVID-19 à domicile présentant des symptômes légers. Il s'agit d'un effort pour soulager la pression sur les hôpitaux au milieu de la vague actuelle d'infections ainsi que le manque de personnel dû aux mesures d'isolement. Cela survient alors que 58 837 cas ont été signalés à l'échelle nationale hier, samedi. La Chine a créé, je cite, « une boucle fermée à Pékin, une bulle impénétrable pour accueillir des Jeux olympiques d'hiver sans Covid ». L'événement commence le 4 février prochain, mais la Chine connaît des épidémies de coronavirus dans plusieurs villes, y compris ses premiers cas transmis localement de Omicron. Les athlètes et les participants resteront dans le circuit fermé pendant les Jeux, loin du reste du pays. Mais le fondateur de China Sports Insider, Mark Dreyer, a déclaré que la poursuite des JO d'hiver sans Covid va s'avérer difficile.
There will undoubtedly be cases inside the Olympic bubble. So what happens then? How many cases will there be? How quickly will it spread? Can they isolate and get people into hotel rooms or hospital rooms quickly before it spreads to other people?
Environ 20 millions de personnes sont actuellement confinées dans trois villes en Chine. Reportage de Léo Sira pour Radio France Internationale.
À chaque fois qu'un nouveau cas est annoncé, c'est la même inquiétude. À Shanghai, jeudi soir, les autorités ont confirmé 5 cas de Covid liés à un malade de retour des États-Unis. Et cela suffit à rendre la vie des Shanghaïens plus compliquée. Des quartiers sont confinés, des écoles fermées le temps d'effectuer des tests. Et accéder à certaines villes, comme Pékin, relève du parcours du combattant. Xi'an, Tianjin, Anyang, Dalian, Hangzhou, Canton, Shanghai et aujourd'hui Zhuhai, la liste des foyers s'allonge de jour en jour, mais la Chine campe sur ses positions. À chaque fois, elle teste massivement et confine des milliers, voire des millions de personnes. Omicron, plus contagieux mais moins dangereux que les précédents variants, change-t-il l'équation ? Pour l'instant, à 3 semaines des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, la Chine redouble de sévérité. Et même par la suite, changer de stratégie ne sera pas facile. Car si les Chinois sont vaccinés à 86%, leurs vaccins sont d'une efficacité limitée. Abandonner toute mesure pourrait jeter des millions de personnes dans les hôpitaux. Impossible à envisager pour les autorités qui ont insisté sur le chaos et le nombre de morts en Occident pour mettre en avant, au contraire, le succès de la gestion de l'épidémie par le Parti communiste.
Le Covid-19 en France et des milliers de passes sanitaires seront désactivés ce dimanche 15 janvier en l'absence de rappel vaccinal. Hier, il y a eu des milliers qui se sont fait vacciner. Laurent Di Fraya, RFI.
Virginie sort de cette pharmacie du 15e arrondissement. Elle vient de faire sa 3e dose, un geste désormais indispensable pour pouvoir continuer à bénéficier de son précieux sésame.
Pour moi, c'était important de conserver un pass sanitaire et de pouvoir continuer à aller dans un bar, boire des coups avec des amis ou au restaurant. Même s'il faut en faire 4-5 derrière, clairement, je vais les faire juste pour continuer à avoir une vie sociale et à vivre vaguement normalement, on va dire.
La plupart ont pris les devants pour ne pas être hors délai. C'est le cas de Mathieu, ce jeune Parisien qui lui aussi veut continuer à vivre sereinement.
Je ne suis pas concerné par cette échéance-là parce que j'ai justement fait ma 3e dose pour éviter de ne plus avoir de passe sanitaire à partir du 15. Là typiquement, je vais prendre l'avion là ce soir et j'ai besoin du passe sanitaire, donc enfin pour tout. Et puis même, j'ai envie de dire au boulot, pour rassurer aussi les proches. Moi, pour moi maintenant c'est nécessaire, on ne peut pas s'en passer malheureusement.
Les Français avaient 7 mois pour effectuer leur dose de rappel vaccinal. À partir du 15 février, ils n'auront plus que 4 mois pour être en règle.
Les présidentielles en France avec à gauche 9 candidats en lice. Hier, Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, était à Lyon où elle a déclaré sa candidature. Aurélien Devernois, RFI.
Un revenu universel jeune de 800 euros pendant 5 ans, plus de TVA pour l'agriculture bio, un salaire minimum net de 1400 euros ou encore le recrutement de 100 000 soignants. Christiane Taubira a mis des chiffres dans son lyrisme, histoire de mettre fin aux critiques sur son absence de programme, mais avec un maître mot, le dialogue.
Nous allons faire tout cela ensemble, parce que nous en sommes capables. Nous allons le faire en discutant. En nous disputant parfois, ce sera le ressort de ma présidence.
faire ensemble face à une pratique du pouvoir qui s'est dévoyée, selon l'ancienne ministre de la Justice.
Nous voulons un gouvernement qui sache dialoguer au lieu de moraliser, de caporaliser.
Cette dérive, Christiane Taubira affirme pouvoir y répondre du fait notamment de son expérience de femme d'État.
Je sais la nécessité de répondre aux missions régaliennes. Je sais qu'elles peuvent être lourdes. Oui, j'étais garde des Sceaux lorsque nous avons dû affronter les attentats les plus meurtriers de notre histoire.
Une manière aussi de se placer au-dessus de la mêlée des candidats à gauche. La question de l'union n'a d'ailleurs fait l'objet que d'une brève allusion. Christiane Taubira veut parler à tous les Français.
J'ai besoin de vous.
Mais avant de rassembler au-delà de son camp, il faudra déjà s'imposer à la primaire populaire de la gauche dans 2 semaines.
Le dirigeant travailliste en Grande-Bretagne, Keir Starmer, a renouvelé ses appels à la démission du Premier ministre Boris Johnson à la suite de nouvelles allégations de fêtes organisées dans des bâtiments du gouvernement pendant les lockdowns dus au Covid-19. Keir Starmer affirme que les actions du Premier ministre ont sapé la confiance du public dans le gouvernement.
The moral authority matters in relation to enforcing the COVID rules, but we've got other massive challenges facing this country, massive challenges. We've got a Prime Minister who is absent, you know, he's literally in hiding at the moment, and unable to lead. And so that's why I've concluded that he's got to go.
Et maintenant, on écoute le reportage de Sidonie Gaucher pour RFI.
L'image contraste et agace. Le 17 avril 2021, on voit dans les journaux la reine Elisabeth II assise seule devant le cercueil du prince Philippe. Seule en raison des restrictions sanitaires. Pourtant, la veille, la musique résonne dans tout Downing Street. Un DJ set assuré par Shelley Williams-Walker, la conseillère spéciale du Premier ministre. Selon le Mirror, Boris Johnson encourageait son équipe à lâcher la pression en fin de semaine lors de ses apéros du vendredi. On parle d'une quinzaine de fêtes si fréquentes que l'équipe ministérielle allait se ravitailler au Tesco du coin avec une valise. Est-ce la goutte qui fera déborder le verre ? De tous bords, on appelle à une démission de Boris Johnson et la presse anglaise ouvre déjà les paris sur un ou une potentielle remplaçante. Et se demande même si la reine a le pouvoir de renvoyer un Premier ministre. Cela n'est pas arrivé depuis 1834.
En Tunisie maintenant, avec près de 12 journalistes qui ont été victimes de violences aux mains de la force policière. Écoutez Souayeb Kayati, directeur du bureau Afrique du Nord de Reporters sans frontières.
L'unité de monitoring du syndicat national des journalistes tunisiens a recensé plus d'une vingtaine d'agressions. Les plus graves sont celles dont étaient victimes 4 journalistes, dont Mathieu Galtier, qui est le correspondant de RFI, Libération et d'autres médias internationaux en Tunisie, alors qu'il était en train de filmer l'arrestation d'un des manifestants. C'est là qu'il a été agressé par un policier alors qu'il portait le dossard de journaliste. Il a bien expliqué qu'il était journaliste, aussi bien en arabe qu'en français, mais les policiers l'ont quand même plaqué par terre et roué de coups. Secouru par les pompiers, on lui a rendu après coup ses effets personnels dans son téléphone, mais sans la carte mémoire avec laquelle il filmait les arrestations et surtout la riposte ultra-violente des policiers envers les opposants du président Saïd.
Le Congrès américain a ordonné au Département d'État de produire un rapport détaillé sur les circonstances de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet dernier. L'enquête est au ralenti en Haïti, comme nous l'explique Stéphanie Schuller pour RFI.
La loi bipartisane adoptée par le Sénat en cette fin de semaine doit encore repasser par la Chambre des représentants, mais une fois promulguée, le Département d'État américain disposera de 3 mois. 3 mois pour fournir un rapport sur les circonstances qui ont mené à l'assassinat de Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, sur les auteurs et les commanditaires du crime, mais aussi sur les éventuelles pressions qui ont pu peser sur les enquêteurs haïtiens. Les sénateurs veulent également savoir si une quelconque ingérence a pu entraver l'enquête officielle en Haïti ou si certains auteurs de l'assassinat ont pu être, par le passé, employés par le gouvernement américain. Immédiatement après le meurtre du président haïtien, des agents du FBI avaient été dépêchés à Port-au-Prince pour collaborer avec les autorités haïtiennes. Mais force est de constater que l'enquête en Haïti s'enlise, à l'instar d'autres enquêtes sur d'autres crimes graves. En 2018, à La Saline, un quartier pauvre de la capitale haïtienne, un massacre avait fait plus de 100 morts. Là encore, les sénateurs américains en demandent un rapport détaillé au département d'État.
L'ancien géologue en chef des îles Tonga a décrit l'éruption d'un volcan sous-marin au large des côtes de l'île comme totalement unique. L'explosion a déclenché un tsunami avec des avertissements pour la côte est de l'Australie et des avertissements pour l'île de Norfolk et l'île de Lord Howe. L'ancien géologue en chef du royaume des îles de Tonga, le professeur David Tappin, a déclaré que l'éruption ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth. Il fera 32 degrés, Adélaïde 31, Melbourne 28, Hobart 24, Canberra 29, Sydney 28, Brisbane 33, Cairns 33, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce 16 janvier. Les avocats de Novak Djokovic présentent leur dossier pour permettre au numéro 1 mondial de rester dans le pays et de disputer l'Open d'Australie. Le Victoria reçoit sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le tennis. 4 finales hier avec la victoire à Adélaïde de l'Australien Kokkinakis contre le Français Rinderneck en 3 manches. Chez les dames, c'est l'Américaine Madison Keys qui a gagné la finale contre Alison Risk qui est également américaine. À Sydney, la victoire du Russe Karatsev contre Murray, l'Écossais. Chez les dames, victoire de l'Espagnol Paola Badosa contre la Tchèque Krejcikova. On passe au foot, la CAN avec le Nigeria qui s'est imposé contre le Soudan. Christophe Jousset, Radio France Internationale.
Oui, extrêmement appliqué les Super Eagles, ils ont fait les choses rapidement, ils ont mis les choses au point rapidement face au Soudan, toujours à Garoua, troisième minute, c'est le but le plus rapide depuis le début du tournoi, c'est Chukwueze, l'attaquant de Villarreal qui a ouvert la marque, il y a eu aussi Awoni d'une tête alors là pour le coup vraiment très chanceuse, hein, presque involontaire la tête, il a marqué son premier but en sélection, tant mieux pour lui, c'était 2-0 à la mi-temps et puis à la reprise, les Super Eagles dégouavonnent, ont démontré qu'ils restaient bien concentrés sur l'objectif puisqu'il ne leur a fallu que 35 secondes pour marquer le troisième but, le but du 3-0 signé Moses Simon, le Nantais. Et il y aura un pénalty pour les Soudanais à la 70e minute de jeu qui leur a permis, suite à une grosse faute de la Haina dans la défense, dans sa surface de réparation, qui a permis aux Soudanais de réduire l'écart. Pénalty de Walieldine Kidir, le joueur d'Al Hilal.
Et je vous propose d'entendre une réaction du Nigeria recueilli par notre confrère Marco Martins de la rédaction lusophone. William Trostekon, le défenseur nigérian de Watford, c'était il y a quelques minutes.
Aujourd'hui, c'était un challenge différent du premier match. Nous avions été très bons d'un bout à l'autre. Là, nous étions lents en première période, mais bien meilleurs en seconde. Mais bon, c'est toujours un bon signal envoyé, même si nous avons été moins performants. Nous avons quand même inscrit 3 buts et nous méritons donc de gagner ce match. 6 points, nous sommes heureux et qualifiés pour le tour suivant, même si nous voulons gagner. le dernier match.
Et dans l'autre match, la Guinée-Bissau s'est inclinée face à l'Égypte, 1-0. À nouveau, le reportage de Christophe Jousset pour RFI.
Oui, ils l'ont échappé belle. Victoire 1-0 sur le but de Mohamed Salah, 69e minute. Mais ce qui reste, ce qui nous maintient sous tension encore quelques minutes après le coup de sifflet final, c'est ce fameux but refusé à la Guinée-Bissau, le but égalisateur à la 82e minute. Superbe but signé Mama Baldé, l'attaquant de Troyes, qui a réussi, après avoir été au duel avec le défenseur égyptien, à s'arracher à son marquage, à lui échapper, à effacer un deuxième défenseur égyptien et à délivrer une superbe frappe décroisée dans le petit filet opposé. L'un des plus beaux buts depuis le début du tournoi, sans doute. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que l'arbitre Pacifique Ndabiya Wenimana, pardon, l'arbitre burundais, a d'abord validé le but et puis... sans doute pressé par les Égyptiens qui se sont massés autour de lui, a finalement décidé d'aller voir la VAR, d'aller vérifier sur l'écran. Et là, eh bien, il a annulé ce but. Et ça va faire parler parce que le duel paraissait tout à fait régulier entre Mama Baldé et le défenseur. Et la priori, la majorité pense qu'il n'y avait pas de raison de l'invalider, ce but.
Yoro, c'était votre avis, pareil, pas de faute sur cette action?
Il n'y a pas faute, il y a mille fois but, parce qu'ils se sont tous les deux accrochés, et puis l'autre a été plus puissant, Mama Baldé a montré de la puissance, après il a enchaîné avec des gestes techniques parfaits, enveloppé, il y avait but. Pour moi, il n'y avait pas faute.
Le Mali contre la Gambie, c'est ce dimanche, ces deux équipes, ce sont les deux premier du groupe F, Cédric de Oliveira, RFI.
Ce début de CAN, Aboubacar Camara l'imaginait autrement. Mais la défaite face à la Gambie a ramené la Mauritanie sur terre. Le capitaine Mourad Bitoun reste persuadé que son équipe a tout pour rebondir.
Ouais, je ressens une très grosse envie de mes partenaires, de mes copains, de notre famille. Quoi. On s'entend tous bien, on veut tous faire un beau parcours ensemble. Après, c'est mes mots à moi, mais ça va être très important pour nous d'être très soudés. On va serrer les coudes, telle une famille.
Une famille mauritanienne guidée par le tout nouveau sélectionneur Didier Gomez Darossa. Arrivé il y a 2 mois, il tente de faire le pont entre les générations.
Il fallait renforcer les choses parce qu'il y a 2 nouveaux joueurs. On sent vraiment une équipe qui vit bien ensemble et qui vraiment est en train de renforcer les liens.
Ambition partagée par un des tauliers du groupe mauritanien, Adama Ba est en sélection depuis 2013 et il essaye de guider au mieux les nouvelles têtes comme Beyat Lekveri, 16 ans et 8 mois et plus jeune joueur du tournoi.
Ils savent qu'ils ont un bon groupe, parce qu'il n'y a pas de mauvais garçons. Et après, nous on essaye d'intégrer au mieux les nouveaux et franchement avec ce groupe exceptionnel qu'on a, ça, c'est très très facile de s'intégrer avec nous.
Déjà dos au mur, hein, la Mauritanie aura bien besoin de cette cohésion pour tenir tête à la Tunisie, un des favoris du tournoi.
Et puis les Lions du Sénégal, vice-champions d'Afrique, peuvent-ils gagner cette CAN de 2022? Élément de réponse avec Eric Mamrut pour RFI.
Oui, on s'attendait à voir les Lions survoler cette poule. Eh bien, il n'en est rien, malgré leur série de 12 matchs sans défaite en match officiel. En arrivant au Cameroun, le Sénégal a beaucoup souffert, à l'image de sa victoire inaugurale lundi contre le Zimbabwe, battu 1-0 à la dernière seconde sur un pénalty de Sadio Mané. De la souffrance, de la fébrilité et peu d'étincelles également hier, face à la Guinée, avec une première mi-temps ratée, suivie d'une seconde un petit peu meilleure, mais rien de génial. La raison essentielle de ce départ, plus que la Borion, la connaît. Le Covid qui a sérieusement touché la tanière. Une dizaine de joueurs ont été tour à tour testés positifs ces 2 dernières semaines. Les leaders en tête, comme Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ou encore Idrissa Ganagay. Sur les 2 matchs, Aliou Cissé a donc dû faire avec les moyens du bord. À l'arrivée, le Sénégal est quand même tout proche de la qualification avant d'affronter le Malawi. Pas de panique, clame du coup son capitaine Sadio Mané, même si les temps sont plutôt difficiles, on écoute.
Nous avons un objectif, c'est d'abord de finir premier. On a un match à jouer contre le Malawi. Pour nous, c'est un match décisif parce que c'est un match qu'il faut gagner. Il ne sera pas du tout facile aussi. Il faut juste se remobiliser. C'est pas la fin du monde, c'est le football. Je me rappelle en 2019, à ce moment, on avait perdu le match. Et on a été mentalement costaud. Et donc, je pense que par rapport à ça, on a de l'expérience. Donc, nous sommes un groupe. Mais bon, dommage, nous confrontons à une période très, très difficile. Je pense que nous sommes le seul pays qui a ce gros problème. On a manqué beaucoup, beaucoup de joueurs. même à l'entraînement, c'est difficile. 16 jours à l'entraînement, ce n'est pas suffisant. Donc, si tu veux gagner une CAN, il faut un groupe. Et je pense que les joueurs nous manquent, bien sûr, c'est normal. Mais bon, ce n'est pas l'excuse. On va essayer de faire avec les moyens que nous avons aujourd'hui, parce que nous sommes le Sénégal.
Sadio Mané qui fait référence à la défaite contre l'Algérie en phase de poule de la CAN 2019, hein, ce qui n'avait pas empêché les Lions de disputer la finale contre ces mêmes Algériens. Puis bonne nouvelle aujourd'hui pour les Lions, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Balot Touré, Ganagay ont pu s'entraîner, ils devraient donc pouvoir être alignés mardi contre le Malawi.
On passe au foot en Europe, en France. La Ligue 1, il y avait deux matchs hier. La victoire du Paris Saint-Germain contre Brest 2-0. Lens a battu Saint-Etienne 2-1. Et puis, il y a un nouveau venu chez l'OM, Cédric Bakambou, 30 ans. Son portrait avec Yoram Melloul pour RFI.
Pour Cédric Bakambou, l'OM, c'est avant tout la passion.
Pourquoi Marseille ? Parce que je sais ce que représente Marseille ici en France. Je sais ce que représente Marseille en Afrique. Donc voilà, très grosse ferveur autour de ce club.
Et l'international congolais veut marquer tout de suite les esprits.
Vous savez comment on m'appelle à Kinshasa ? On m'appelle Bakagol. C'est le surnom qui m'a suivi tout au long de ma carrière.
Car en plus de la ferveur et de l'exposition médiatique, le joueur de 30 ans est aussi séduit par le projet sportif de l'OM.
Ce que j'ai dit à mon agent, c'est que j'étais à la recherche d'un challenge. Et quand il m'a proposé l'Olympique de Marseille, j'ai tout de suite dit oui, c'est là-bas que je veux y aller. Ça a bien matché entre ce que je recherchais et ce que je recherchais le président.
Le président Pablo Longoria, justement, est ravi d'accueillir un joueur qu'il suit depuis longtemps et qu'il aime pour sa polyvalence.
Je me rappelle perfectement à Bursaspor quand il a joué là-bas, qu'il a évolué comme ailier à Roche, en Espagne en jouant avec Soldado comme deuxième attaquant. À l'équipe nationale, qu'en Bocani, c'est plus la référence, il joue toujours autour de lui. Un profil d'attaquant comme lui dans les marchés actuels, c'est très difficile de trouver.
Mais il faudra attendre encore un peu avant de le voir jouer, car il n'est pas qualifié pour le match de ce week-end contre Lille.
On passe en Angleterre, la 22e journée, victoire de Manchester City contre Chelsea 1-0. Manchester United et Aston Villa ont fait match nul 2-2. En Espagne, 8e de finale de la Coupe du Roi avec Séville et Betis Séville qui ont fait match nul, 1-1. Et puis la victoire de Majorque contre Espagnol Barcelone, 2-1. En Allemagne, le Bayern de Munich s'est imposé contre le FC Cologne, 4-0. Hoffenheim, 3e au classement, a été battu par l'Union Berlin, 2-1. En Italie, victoire de la Juve de Turin contre Udinese, 2-0. On passe au rugby avec la Coupe d'Europe en poule A. Il y avait 3 matchs. Le Racing 92 s'est imposé contre Ospreys. Le Racing 92 s'est imposé contre Ospreys, 25-10. Victoire de La Rochelle contre Bath, 39-21. Exeter a battu Glasgow, 52-17. En poule B, victoire des Wasps contre Toulouse, 30-22. Leicester s'est imposé contre Connacht, 29-28. Et Bristol a battu le Stade français, 28-17. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Et maintenant, en musique, je vous propose d'écouter Candy Guira, Africa. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français. 13h et bientôt 34 minutes, vous écoutez Radio SBS, le programme en français. On passe à table avec la série Kitchen Conversations et se focus sur le saucisson de kangourou avec notre collègue Audrey Bourget qui parle à Jean-Marc Amar, spécialiste du saucisson de kangourou.
Votre communauté, vos conversations.
Bonjour, ici Audrey Bourget. On se retrouve pour le premier épisode de 2022 d'Atable Kitchen Conversations. Pour commencer l'année du bon pied, j'ai rencontré Jean-Marc Amar de la Bastide Saucisson Australia pour discuter de son saucisson qui fait le plus parler, celui de kangourou.
Le kangourou, c'est la viande la plus emblématique. C'est la viande la plus emblématique. Il y a 200 ans, enfin un peu plus de 200 ans, mettons 1788, il n'y avait pas de viande. En Australie, il n'y avait pas de porc, il n'y avait pas de bœuf, il n'y avait pas de lamb. Les protéines animales, c'était principalement kangourou, emu. Et le kangourou, c'est vraiment la viande emblématique d'Australie. Et ça reste encore une viande qui est sustainable.
Comme vient de le dire Jean-Marc Amand, fondateur de la Bastide Saucisson Australia, il n'y a pas plus australien que le kangourou. Mais même si elle a plein d'avantages, la viande de kangourou est encore peu consommée au pays. Jean-Marc Amand, lui, s'y intéresse depuis longtemps.
Au tout départ, moi, quand je suis arrivé en Australie, je suis arrivé en 2007 et je suis arrivé comme cuisinier, je suis arrivé comme chef. Et très vite, j'ai été initié aux produits natifs australiens. Donc, moi, ça a été une grosse révélation. Je voulais, au tout départ, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec les produits natifs australiens, donc tous les produits endémiques, que ce soit les viandes, les légumes, les fruits, les épices, etc.
Parallèlement, il a lancé deux entreprises, l'une de charcuterie avec des viandes locales comme le crocodile et le kangourou, et l'autre offrant de la charcuterie classique française. Éventuellement, il a décidé de se concentrer sur la charcuterie d'artisan avec une gamme de saucissons. Et en 2017, il a créé son fameux saucisson de kangourou.
J'avais toujours cette envie d'incorporer du produit typiquement australien. Et en même temps, bon, c'est vrai qu'en 2017, on s'est inscrit pour cette compétition en France du Mondial du saucisson. Et quand on a été pris, il était évident qu'il fallait qu'on vienne avec un point de différence. Donc, c'était évident pour nous d'arriver sur cette compétition en France avec un saucisson de kangourou étant le compétiteur australien.
Fait avec du kangourou et du porc, ce saucisson a un goût unique.
Alors d'abord, il faut savoir que les gens qui essayent le saucisson de kangourou, il y a toujours un a priori. Hein. Alors, ça dépend si ça va être des Australiens ou des Français. Les Français vont être plus intéressés à essayer. Alors que souvent, chez les Australiens, il y a une certaine réticence parce que traditionnellement, cette viande-là, elle a été pendant longtemps destinée à faire de la nourriture pour chats et pour chiens. Après, au niveau gustatif, les gens sont toujours très étonnés parce qu'ils s'attendent toujours à quelque chose de fort. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Notre saucisson de kangourou, une fois qu'il est prêt à être consommé, donc relativement frais, on a quelque chose qui est très doux au niveau du goût, un petit peu fruité, une viande très très rouge, très belle couleur. Les gens sont toujours étonnés, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil en fait que ce qu'on pourrait s'attendre.
La fabrication est similaire à celle d'un saucisson classique, mais comme le kangourou est une viande très maigre, Jean-Marc Amard utilise aussi du porc.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que la viande de kangourou n'est pas appropriée pour la charcuterie. Enfin, elle n'est pas appropriée pour les salaisons, typiquement. C'est une des viandes les plus maigres qui existent. Je pense que c'est la viande rouge, peut-être la plus maigre au monde, avec un taux de gras de à peu près 2%. Donc, évidemment, pour faire tout type de saucisson ou salami, c'est compliqué, quoi. Il est pratiquement impossible de pouvoir faire quelque chose 100% kangourou. Donc, on travaille, en fait, on fait les premières productions qu'on faisait, c'était 100% viande kangourou et tout le gras, c'était c'est gras de porc. Bon, le produit était encore un petit peu trop fort en goût pour certains, donc on a coupé. Maintenant, c'est maigre de kangourou et de porc et gras de porc.
En 2018, le saucisson de kangourou a reçu une médaille d'argent au Mondial du saucisson en Ardèche. L'un des saucissons a même été vendu aux enchères.
Eh ben, en fait, ce qui s'est passé pour cette compétition, on avait assez peu de matières premières. Donc, on avait un certain nombre de kilos avec nous qu'on a échantillonné pendant 2 jours. Mais les gens étaient un peu frustrés parce qu'ils voulaient tous acheter, en fait. La réception du public a été vraiment super. Les gens voulaient tous rentrer chez eux avec leur saucisson de kangourou. Voilà, malheureusement, on n'était pas à même de pouvoir vendre vu le peu de quantité qu'on avait. Donc, on a décidé de faire une enchère. Et effectivement, je crois qu'on est monté, je ne sais plus à combien on est monté, mais je crois que c'était dans les 50 ou 60, 70 euros pour une pièce. Ouais, c'était assez marrant. Ouais.
Et si la curiosité pour le saucisson de kangourou venait d'abord des Français, de plus en plus d'Australiens sont intéressés.
Je suis vraiment content de ça parce qu'il y a de plus en plus de... Bon, si tu veux, on a sur ce produit, on a un petit peu deux types de clients. Il va y avoir d'un côté le Français qui veut envoyer ça en France ou qui veut le ramener en France parce que c'est un peu le souvenir rigolo d'Australie. Et d'un autre côté, on a les Australiens qui commencent à être de plus en plus demandeurs et qui vraiment supportent en fait cette consommation-là, qui trouvent que c'est vraiment the way to go, c'est là où on doit aller. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense que ce serait beaucoup plus sage pour nous de consommer cette viande en priorité plutôt que les viandes de les viandes qui sont des nouvelles viandes finalement sur ce territoire, hein, sur ce continent, les viandes classiques occidentales, porc, bœuf et agneau sont vraiment c'est une nouveauté dans l'histoire de l'Australie en réalité.
Jean-Marc Amar espère et croit que l'engouement pour les produits de kangourou ne peut aller qu'en augmentant au cours des prochaines années.
Je prends le pari que les choses vont énormément changer. Plusieurs raisons. D'abord, parce que les viandes conventionnelles vont exploser au niveau prix. Aussi, il y a le marché asiatique qui est aussi de plus en plus consommateur des viandes traditionnelles australiennes, donc le bœuf, le porc, etc. Principalement le bœuf et le lamb. Et moi, à mon avis, on va avoir une espèce de pénurie, je pense, ou alors les prix vont devenir très, très prohibitifs sur les viandes d'élevage. Et je pense que la viande de kangourou va vraiment avoir un rôle à jouer qui va être beaucoup plus important dans quelques années à cause de ça. Sans parler des problèmes de pénurie d'eau aussi, hein, qui vont s'accentuer. Et puis, il faut savoir que par nature, c'est une viande qui est organique, quoi. Elle est bio, hein. Là, on parle de... Ce sont des viandes sauvages qui sont des animaux qui sont dans la nature... Enfin, c'est vraiment un produit propre, quoi.
Si vous voulez goûter le saucisson de kangourou et les autres produits de charcuterie de la Bastide de Saucisson Australia, ils sont disponibles dans plusieurs commerces à travers le pays, dans des marchés fermiers et également au saucisson.com.au. C'est saucisson au pluriel avec un S.
Présent sur un personnage en lien avec l'actualité, notre personnalité de la semaine, le réalisateur de cinéma français Jean-Jacques Benex. Il s'est éteint à 75 ans, auteur de films cultes dans les années 80, une chronique avec des extraits de France Télévisions et des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
On a appris la disparition aujourd'hui du réalisateur Jean-Jacques Benex. Il avait marqué le cinéma français avec notamment trois films esthétiques et poétiques dans les années 80. Diva, La lune dans le caniveau, encore 37-2 le matin, il avait 75 ans.
47-2 le matin, Diva, sorti dans les années 80, ont été des films marquants. Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, a salué, je le cite, un caractère affirmé, un talent certain, des films cultes. Valérie Gaget.
Jean-Jacques Benex restera à jamais le cinéaste qui fit d'une parfaite inconnue, Béatrice Dalle, une star de cinéma.
C'est la première fois qu'on sort dans la lumière.
Adapté d'un roman de Philippe Dian, 37-2 sera l'un des plus grands succès du cinéma français.
Et alors, comment tu me trouves ?
Quand il y a un bonheur, une grâce, une spontanéité telle que celle que Béatrice a, le reste, c'est plus qu'une question de ménager des situations, de les gérer et d'essayer de placer sa caméra au meilleur endroit pour obtenir ce qui, de toute évidence, se passe.
Fabuleux destin de 37-2, comment expliquez-vous ce succès mondial ?
Oh, bah, je crois que, alors là, il faut rester vraiment modeste. Le roman de Philippe Dian, qui est une apparition dans la littérature française, je ne suis pas le seul à le dire, et puis une histoire d'amour. Dans une époque, au fond, où beaucoup de jeunes ont perdu un peu l'espoir, dans une époque où on n'est pas tellement... je veux dire, le futur ne fait pas plus tellement rêver. Qu'est-ce qui fait encore rêver ?
L'amour ?
Ouais.
Mais ouais.
Une grande histoire d'amour.
On s'embrasse.
Mais oui.
En 1980, son premier film avec Richard Boringer avait déjà fait sensation.
C'est à cause de la cassette.
Où tu es ? Surtout ne bouge pas.
Benex a voulu faire un film bleu, à la manière des premiers Picasso. Il remporte 4 Césars, mais certains critiques féroces dénoncent un esthétisme de pacotille. En 1983, La Lune dans le caniveau avec Gérard Depardieu sera même sifflé à Cannes. La mode Benex est passée, il ne guérira jamais de cet échec. Roselyne et les lions, et même IP5, L'île aux pachydermes, dernier film d'Yves Montand, ne trouveront pas leur public.
C'est le crâne que le personnage dans Diva dit le curé attrape, regarde en disant « j'aime pas Beethoven ». C'est la présence de la mort qui est dans tous mes films.
Ça vous hante à ce point ?
Ah oui, complètement, oui.
Si Béatrice Dalle était assise à ma place, mm-hmm. vous lui diriez quoi ?
Je lui dirais, mais ça fait beaucoup trop longtemps qu'on ne s'est pas vu, ma chérie. Mais t'es toujours aussi belle. Chaque fois que je peux, je la vois, je la regarde. Je n'appelle jamais les acteurs avec lesquels j'ai tourné, ou pratiquement pas. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à eux. Je crois qu'on a tellement... ce qu'on peut connaître sur un film va tellement loin... Qu'après, je sais pas, c'est comme, vous savez, c'est comme les amours d'enfants. C'est rare qu'on épouse une petite fille.
Ça marche pas généralement.
Ouais. Mm. Voilà. Il y a un charme et j'ai peur. Vous savez, quand on tourne avec quelqu'un, on est sans qu'il y ait nécessairement une relation sexuelle, physique, etc. C'est une relation de passion. Ça va tellement loin. Après, c'est comme le caporal épinglé, les prisonniers qui ont été ensemble. Mais ça, on garde. Je garderai un souvenir, c'est toute ma vie.
Béatrice Dalle, sa Betty de 37-2, se dit ce soir orpheline. Une des plus belles pages de ma vie vient de se tourner. Je t'aime.
Et en fin d'émission, un rappel des grands titres de ce dimanche 16 janvier. Les avocats de Novak Djokovic présentent en ce moment même leur dossier pour essayer de permettre au numéro 1 mondial de rester dans le pays et de disputer l'Open d'Australie. Le Victoria reçoit sa première livraison de 3 millions de tests antigéniques rapides. En France, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, a officialisé sa candidature pour la présidentielle de 2022. Et voilà, nous arrivons maintenant presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et on va vous laisser avec Cesaria Evora qui nous interprète Petit Pays. Belle journée, à bientôt et à très vite.
chata brilha, lina mar boi o areia, e cata moia, espaiá desse mundo fora, só vatima.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.